Allô, c'est Sylvain dans ta radio. Le Prix du Gros est fier de commanditer et surtout de féliciter Michel Villeneuve pour l'ensemble de sa carrière en Formule 1.
Catherine Le Matin. Voici Michel Villeneuve. Que la mort ici se lève.
7h37, salut Michel Villeneuve.
Salut Mathieu, je veux souhaiter la meilleure des chances à mon ami Paul.
Oui.
Qui va changer d'affectation à l'automne prochain. Tu sais que pour être quelqu'un qui est issu du monde de la radio, puis tu as les deux pieds dedans,
oui.
C'est usant au bout de la ligne.
Oui.
Et lorsque tu animes la même émission durant 12 années consécutives, je dois te dire que c'est tout un mandat. Puis se renouveler à tous les jours, c'est pas donné à tout le monde. Et je sais que Paul a toujours, écoute, il est bouillonnant d'idées. Son cerveau, son hamster roule à 100 000 à l'heure.
Ah oui, hein, c'est fou.
Et peut-être qu'il se disait, inexorablement, le temps fait son œuvre.
Mm-hmm.
Puis Paul rajeunit pas. Puis il veut réaliser tous ses projets, mais animer un show à tous les jours, c'est accaparant. Il n'y a pas toujours l'espace nécessaire pour aller jusqu'au bout de ses rêves, et Dieu sait qu'il en a. Je pense que Paul prend une bonne décision, va demeurer à l'antenne les week-ends. Ça va lui donner le... Puis le rythme le week-end est totalement différent
quand
c'est quelque chose.
Ben oui.
Et ça va lui permettre, durant la semaine, de peut-être mener à bout les différents projets qu'il a en tête. De toute façon, il laisse une trace indélébile sur son émission. Tu sais, les vraies bêtes de radio, il y en a de moins en moins. Et Paul Aud était l'une de ces dernières bêtes de radio. Il y a toujours Paul Arcand qui est là.
Ouais.
Mais pour tous les autres, là, il y a peu de monde qui sont issus du monde de la radio. Vous en avez une bébite, vous autres, qui s'appelle Catherine Godreau. Ça, c'est une bébite de radio.
Ouais.
Et des bébites de radio, il y en a moins parce que les gens viennent d'un petit peu partout, de tous les milieux, et par accident, ils se retrouvent à l'antenne et au micro, puis certains font du bon travail, certains un peu moins. Mais dans le cas de Paul, écoute, c'était un homme de radio. Bonne chance, il a fait le job. C'est maintenant au tour de Patrick Lagacé. J'ai aucun doute sur le talent et la volonté de celui-ci de mener à bon port sa nouvelle barque, parce que il y a de l'énergie, il est intelligent.
Absolument.
Il y a un ego juste parfait, tu sais. Faut un ego juste parfait.
Mais faut être un peu cocky là pour faire ça.
Bon, mais faut être un peu honnêtement, faut le dire là.
Mais oui.
Il faut être un peu baveux. Puis il faut surtout t'aies une identité.
Absolument.
Paul, on connaissait son identité.
Mm-hmm.
On connaît celle de Patrick Lagacé. Mm-hmm. Il faut pas que, comme disait Marc Bergevin, il faut que tu sois dans la bonne chaise.
Ouais.
Il va être dans la bonne chaise.
Absolument, et tu fais bien de mentionner, de souligner la part des deux, parce que j'ai pas eu l'occasion de collaborer encore avec Patrick Lagacé, évidemment, dans l'émission du retour,
ouais.
Mais je le connais personnellement et c'est un bon gars, rempli de talent également. Et Paul Aude, ben écoute, c'est un chic type, Paul Aude, pour ceux qui l'entendent là sur nos ondes, aussi dans le quotidien. Là, c'est un gars vraiment, vraiment sympathique puis vraiment chic, là, tu sais, un vrai de vrai bon Jack, là.
C'est un gentleman.
Ouais, exactement.
C'est un gentleman. Puis nous, on aimait ça travailler ensemble avec un sens de l'humour tout à fait hors du commun. On va s'en ennuyer, mais il laisse pas tout à fait le navire.
Exactement. Et en même temps, j'ai une pensée pour Mathieu Beaumont, lui qui subit un petit peu l'effet domino de tout ça.
Puis Mathieu, c'est un jeune qui a encore du talent. Il
Absolument.
Va pouvoir continuer à se développer. Puis au sein de la grande famille Cogeco, il y a tellement d'opportunités. Et ça change très rapidement dans ce monde-là. Tu sais jamais ce qui nous attend.
Ça, c'est
bon,
effectivement le cas.
Si le Canadien parvient à la fin de la saison, mon cher ami, à faire les séries éliminatoires par la... Je pense qu'il y a moins de peau sur les dents que sur les fesses, on va dire, sur la peau des dents. Il faudra se rappeler des deux points que le Canadien a récoltés hier soir à Detroit, parce que c'était pas beau.
Non, hein? Puis écoute, moi, je suis un fan des Red Wings en plus, puis je vais te dire qu'à un moment donné, j'y ai cru.
Comment ça, tu es un fan des Red Wings?
Ben, je vais te l'expliquer. Écoute, les Nordiques sont partis et il était hors de question que je prenne pour l'Avalanche à ce moment-là. Alors, j'ai pris l'équipe qu'il détestait le plus, parce qu'il y a eu une bonne rivalité à l'époque avec les Red Wings. Et c'est là que je me suis rendu.
Tu parles d'un changement, tu parles d'une logique, toi. Ah non, là, tu me jettes à terre.
Non, mais tu sais, tu peux pas passer du bleu au rouge de même. Voyons donc, il y en a des guidounes qui l'ont fait, mais pas moi.
Tu veux-tu parler de la politique, là, ou...
Ben, tu le prends sur le bord que tu veux.
OK.
Je parle des Nordiques canadiens, mais tu le prends sur le bord que tu veux.
OK, les Red Wings, je te comprends, parce que ça a été une belle équipe durant longtemps.
Oui.
C'est une équipe propre. C'est une équipe qui, lorsqu'on a décidé, lorsque Scotty Bowman a décidé, lorsqu'il était pilote des Red Wings, d'utiliser les cinq Russes ensemble, là,
ah, oui.
Ça a changé un tout petit peu. Ça a changé un tout petit peu la façon de jouer dans la Ligue nationale. Puis du côté des Red Wings, on était patients. C'était une organisation modèle. Mm-hmm. Un jeune, avant qu'il monte dans la Ligue nationale, devait jouer au moins 150 matchs dans la Ligue américaine pour avoir l'expérience nécessaire et la maturité pour joindre la Ligue nationale. Oui, il pouvait se permettre ce luxe-là. Il y avait tellement de formation avec tellement de profondeur que ça prenait du temps à des jeunes à s'insérer dans l'alignement. Ils ont été tellement patients, les Red Wings. Ils ont tellement offert de continuité longtemps qu'ils se sont fait pogner culotte à terre. C'est que ils ont gardé leurs vétérans trop longtemps.
Ouais.
Ils ont refusé de les échanger pour aller se chercher des jeunes au repêchage qui auraient pu assurer la viabilité de l'organisation à long terme. Ils ne l'ont pas fait, puis ils payent pour aujourd'hui.
Ouais.
Mais hier, ils pensaient bien battre le Canadien. Le Canadien qui était battable, on nous a raconté que l'envolée vers Détroit avait été extrêmement difficile.
Mm-hmm.
Les joueurs s'étaient couchés tard. C'était un match qui n'avait pas été facile au Centre Bell parce que ça avait été un match physique contre le Wild du Minnesota. On se retrouve hier à Détroit. Je pense que les Red Wings le savaient aussi parce que ça a fait mal à quelques joueurs, du moins pour ceux qui se sont présentés dans le trafic. Et encore une fois, Marc-André, je dois lever mon chapeau à Brandon Gallagher.
Ah oui, hein?
Écoute, hier, là, il a mangé des coups. Il s'est fait frapper. Je le voyais, je dis, vas-tu finir d'un morceau?
Ben oui, la preuve, c'est que son but, il était sur le dos, là.
Il était sur le dos, puis il est allé là, puis ça, écoute, ça a demandé beaucoup d'énergie, puis il s'est fait frapper tard en troisième période. Une moyenne mise en échec au centre de la patinoire par le vétéran défenseur numéro 55
oui.
des Red Wings, dont le 55 est imprimé sur plusieurs chandails de joueurs de la Ligue nationale. Faut toujours que tu joues la tête haute contre lui.
Mm-hmm.
Mais il s'est relevé puis il a continué. Je me suis toujours demandé comment qu'il va faire, lui, pour jouer dans la Ligue nationale jusqu'à 30 ans.
Ouais.
Je sais pas.
Ah ouais, ouais.
Parce que son style de jeu est abrasif. Il a beau être une petite boîte, tu sais, c'est un trapu, il est fait fort, il a le torse, il a le chest, il a les épaules gros de même, les grosses jambes, mais tabarouette de tabarouette. Il va y en manquer des bottes. Les pentures vont crier tantôt.
Ben là, c'est ça, parce qu'il est pas gros physiquement en plus, là.
C'est ça, mais tu sais, c'est un joueur, c'est un gars solide, là, tu sais, c'est un petit Bousco.
Exact.
Sauf que, à répétition comme ça, lui, il connaît juste une façon de jouer, c'est celle-là. Puis ça fait longtemps qu'il avait pas de marqué de but, puis je pense que ça le fatiguait après le départ canon qu'il a connu en début de saison. Puis là, il a, tu sais, à être moins fancy un tout petit peu, il va ramasser des buts, là, il ramassait habituellement, parce qu'en début de saison, il réussissait, parce que je trouve qu'il a amélioré son lancer, il marquait d'un peu plus loin, mais comme ça marchait plus d'un peu plus loin, il faut que tu t'approches.
Ouais.
Puis lui, il a pas peur d'aller là où ça fait mal, puis ça fait mal, puis il a réussi à marquer un but. En tout cas, je vais te dire une chose, il a réussi hier, c'est lui qui a, je pense, donné le ton pour le Canadien. Même j'étais content pour Dan Petrie hier, parce que, pauvre lui, dans le match contre Minnesota, je pense qu'il a pas dormi de la nuit avec la passe qu'il a fait, mais il est revenu hier pour marquer le but gagnant pour le Canadien, un superbe but, un bon lancer devant sa famille, ses amis à Détroit. Hey, il est rendu à 10 buts.
Ouais, 9-10, mais en tout cas, c'est une bonne saison.
9-10, puis en haut de 30 points. Écoute, là, c'est exceptionnel.
Oh, ouais. Puis c'est même que moi, je trouvais que c'est lui qui aurait dû aller au match des étoiles.
Oh, ben, c'est lui qui aurait dû représenter le Canadien au match des étoiles. Tu sais qu'il pourrait se retrouver avec, à la fin de la saison, avec une production qui va avoisiner les 15 buts. Il y a plusieurs attaquants qui pourront pas se vanter d'avoir ça, mais Petrie l'aura fait.
Ouais.
Tu sais, dans le fond, là, dans une saison qui est pas facile parce que c'est loin d'être terminé pour le Canadien. Parce qu'hier, là, évidemment, dans un calendrier qui est aussi comprimé, tu peux pas laisser échapper des points contre une équipe qui te suit au classement.
Mmh.
Et c'est le cas hier contre les Red Wings de Détroit. Puis comme dirait l'autre, c'est pas combien, mais c'est pas comment, mais c'est combien. Hier, le Canadien a réussi à gagner. On était comme des voleurs, on est parti de Détroit avec 2 points, puis tant mieux.
Exactement, exactement. Mais effectivement, le Canadien qui devrait être plus convaincant pour les duels à venir.
Oui, parce qu'on s'en va à Saint-Louis. Les Blues connaissent pas une grosse saison, mais
non.
C'est une équipe. Honnêtement, là, je sais pas si on a pris les bonnes décisions au niveau du coaching, mais il y a quand même des joueurs de qualité qui sont là. on est incapable de permettre à cette équipe-là, qui a du talent en défensive, mm-hmm. qui a des joueurs explosifs en attaque, qui possède des joueurs très lourds au physique imposant, qui sont capables de brasser l'adversaire. C'est une équipe qu'on a cité en exemple pour représenter les équipes de l'Association de l'Ouest, puis ils sont à plat.
Ouais.
C'était, ben ouais, qu'est-ce qui se passe? Je me pose la même question avec les Panthers de la Floride. Beaucoup de joueurs de talent, des gabarits imposants, des jeunes joueurs vedettes, ils ont tout ce qu'il faut pour gagner, puis ça marche pas. Est-ce que ces équipes-là sont bien dirigées?
C'est ça.
C'est la question que je me pose. Joel Canville est chez eux, lui, actuellement, là, puis il doit rire dans sa barbe. Parce que là, sa valeur, lui, augmente de jour en jour. Puis je me demande si... Là, écoute, on est à la pause du match des étoiles, là.
Mm-hmm.
Il est encore temps. Je pense que là, on a atteint la mi-saison. Je pense qu'avec 35 matchs à peu près à faire pour le reste du calendrier, une équipe qui est pas trop loin peut se permettre de faire un changement d'entraîneur et espérer rattraper le groupe et se tailler une place dans des séries éliminatoires. Il y a une équipe, là, qui est pas dans les séries actuellement, qui a une chance de les faire, qui va poser un geste. Juste avant la pause du match des étoiles, c'est le temps. Le coach peut se préparer, peut préparer ses joueurs, peut mener quelques entraînements avant la reprise des activités. Donc, je vais te dire une chose, il y a des équipes qui vont passer à l'action de juste avant la pause du match des étoiles parmi celles qui espèrent être en haut, qui ne sont pas là où ils devraient être actuellement.
Exactement. Et parmi les équipes qui vont être un peu dans cette tangente-là, il y a toujours le besoin de retenir les joueurs autonomes, puis c'est ce que devront faire notamment les Blue Jackets.
Les Blue Jackets, écoute, c'est une autre équipe. Tu te demandes qu'est-ce qu'ils font. Comment se fait que ça avance pas? Je sais pas si c'est le milieu, si c'est l'atmosphère qui règne à Columbus, ou c'est pas normal
mm-hmm.
que cette équipe-là est incapable de se mettre en marche. Écoute, on chialait parce que le Canadien faisait pas une série. Je regarde les Jackets, là. On se dit, hey, c'est leur année, là. Là, ils progressent. Ils sont là. Ils ont fait ils ont des jeunes joueurs. Ils ont fait un repêchage de qualité. Ils avancent pas. Est-ce que la recette Tortorella, il y a pas personne qui s'en plaint à Columbus, mais est-ce que la recette Tortorella fonctionne? C'est normal. Ça. C'est pas normal que cette équipe-là ne figure pas parmi les meilleurs, et Artemi Panarin, qui est le joueur le plus dangereux chez les Jackets, doit annoncer, à l'occasion de la pause du match des étoiles, s'il va commencer les négociations avec les Jackets et s'il veut demeurer dans cette ville-là, ou si il a décidé de profiter de son autonomie complète à la fin de l'année. Écoute, il y a 45 points. Il y a 13 buts en 39 parties depuis le début de la saison.
Mm-hmm.
C'est tout un joueur de hockey, toute une machine que les Hawks ont laissé partir quasiment pour rien.
Ouais.
Puis il y a une compagnie qui s'appelle iBank, qui est une distillerie en banlieue de Columbus,
mm-hmm.
qui a décidé, sur son compte Instagram, qui a décidé d'installer des panneaux publicitaires dans la ville pour dire « Hey, Panarin, reste à Columbus, et si tu restes, on va te payer à vodka jusqu'à la fin de la vie. »
C'est drôle, ça m'a jamais été offert, ça, moi. C'est...
Non, mais moi, je prends pas de vodka, fait que ça aurait pas un gros effet pour moi, mais sais-tu pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que Panarin, à sa première année, a été filmé en train de prendre un petit coup.
Mm.
Puis lui, il dit, moi, j'aime pas la bière, j'aime la vodka,
comme
les Russes.
Ah ouais.
Fait que là, la distillerie a fait un bon coup, mais est-ce qu'il sera sensible? Mais je pense que c'est un bon coup de marketing de la part de cette distillerie-là. Et je veux dire une chose, là, s'il faut que les autres entreprises s'en mêlent, parce qu'à Columbus, il y a deux équipes professionnelles, l'équipe de soccer, et l'équipe d'hockey, parce que l'université Ohio State prend toute la place avec ses différents programmes sportifs. Mais les Jackets, tout le monde vont cette année, là.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, la base de partisans est quand même fragile. Puis si on ne progresse pas, c'est difficile d'intéresser les jeunes. Ils vont aller voir ailleurs. C'est le danger qui les guette.
Michel, le temps file à grande vitesse. Peut-être en une minute, parle-nous de la valse des entraîneurs. C'est commencé dans la NFL.
Ça brosse partout. Les Buccaneers ont un nouveau coach, Bruce Arians, qui a connu beaucoup de succès avec les Cards de l'Arizona. Il avait pris sa retraite, il a tenté sa chance à la télévision, puis honnêtement, il était pas bon. Puis il s'en est peut-être lui-même aperçu, puis il s'est dit peut-être que ma carrière comme analyste à la télévision sera de courte durée. J'ai eu une occasion de retourner coacher, puis il s'en va à Tampa Bay, puis à Tampa Bay, on a beaucoup, je pense qu'on a beaucoup de talent dans cette équipe-là, et je pense que Bruce Arians est un bon coach, il est axé sur l'attaque, ça devrait fonctionner. On a un nouveau coach également du côté de l'Arizona, on a décidé de faire confiance à un coach qui provient des rangs universitaires, qui était à Texas Tech, qui a perdu son emploi cette année avec l'université, puis s'est retrouvé comme coordonnateur offensif à USC, mais on prend une chance de ce côté-là. Mais il y en a un qui est vite en tabarouette, c'est Josh McDaniel. C'est le maître à penser de Tom Brady chez les Patriots. Lui, il est allé coacher une année avec les Broncos de Denver, puis ça s'est mal passé. Puis là, il a été interviewé plus tôt cette semaine, il est allé à Green Bay. Puis on a décidé de choisir un autre candidat, puis il s'est dit « Hey, je vais-tu perdre la face? » Il a dit à tout le monde « Je ne passe plus d'entrevue, je reste avec les Patriots. » Moi, je me disais, si j'étais à la place de Josh McDaniel, tant que Tom Brady joue à un bon niveau, je passe pour un génie. Je trouve bien de rester là. C'est le meilleur job que je peux occuper.
Exactement, et on saura s'en reparler. Michel, merci beaucoup.
Salut, bye.
Salut, bonne fin de journée à toi, Michel Villeneuve et les sports.